Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaine nouvelle ?
Nouvelle vilaine.
Vilaine nouvelle.
Nouvelle vilaine. Nouvelle vilaine. Vilaine nouvelle. Nouvelle vilaine. Histoire. Eh bien, bonjour. Ah, nous allons retrouver Victor Vilain pour la suite du grand feuilleton historico-indiano humoristico enfin ça s'appelle On descend tous de nos ancêtres. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Vilain, bien que vous allez voir, c'est pas lui mon ancêtre, c'est pas lui. Bon, un bref résumé. Victor, qui a été déporté aux États-Unis, s'est retrouvé dans une tribu indienne, et là, au cours d'une péripétie quelconque, il retrouve un courrier qui lui est adressé par son père Plat. Enfin, Plat, c'est... Hein, comment il s'appelait déjà Paul, je sais plus quoi, Alexandre Vilain, et qui lui conseille de rentrer, enfin, qui lui conseille surtout d'aller à Boston, récupérer et vendre des fusils, et de rentrer vite fait en France. Et Victor, qui est très indécis, se renseigne auprès du grand sorcier, va méditer dans la montagne, et finalement demande conseil au conseil. Bah oui, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir un bon conseil, c'est de se faire conseiller par le conseil. Et à la fin du septième épisode, qui était la fin de notre dernière émission, je disais que le conseil avait pris sa décision, et que c'était J'arrive deuxième, hein, qui en tant que doyen d'âge, qui est désigné pour faire part à Victor du résultat de ce conseil, et ce résultat était que Peshmerga, donc Victor, hein, puisque Peshmerga c'est son nom indien, doit obéir à son père, et que Peshmerga et Koulophon, son frère de sang, doivent retourner en France. Mais comment se passe un conseil indien? Eh bien, c'est ce que nous allons apprendre au cours de ce huitième épisode. Et oui, parce que si la curiosité est, dit-on, un vilain défaut, Victor n'a pas attendu le résultat du conseil pour s'informer. Après s'être éloigné quelque peu, pendant que le conseil se réunissait, il revint en rampant comme un serpent, ou plutôt comme un sioux sur le sentier de la guerre quand il veut surprendre un pony afin de lui pisser dessus. Et il faisait, bien sûr, tous ses efforts pour faire le moins de bruit possible. Bien que, avec le bordel qui régnait dans le tipi, hein, il n'y avait franchement aucun risque. Non, c'est... Alors il se mit à penser, oh, ils n'ont pas dû commencer à parler, hein. Et il passa sa tête sous la tente. Ah bah en effet, hein, le conseil ne parlait pas, il bafferait, ouais. Ah, Victor avait pourtant bien fait les choses, deux grands plats de chevreuil aux myrtilles, des crêpes aux herbes, et déjà, les plats étaient presque vides. Et puis il buvait aussi, hein, une espèce de bière pas bien méchante à base d'orge sauvage. Et puis, le calumet s'était multiplié, et la fumée du tabac envahissait l'espace. Ah, oh, c'était très beau. Non, je sais pas si vous imaginez ça au cinéma, hein. On fait un plan du point de vue de Victor, qui, je vous le rappelle, vient de passer la tête sous la peau de bison qui constitue la couverture de son tipi. Au centre, le feu, dont les flammes montent à 2 mètres du sol. Enfin, moi je dis 2 mètres du sol parce que c'est plus beau pour la beauté de l'image. Hein, parce que jamais un Indien n'aurait été assez con pour faire un feu de cette taille à l'intérieur de son tipi. Il aurait trop peur de foutre le feu, non ? Enfin, n'empêche, c'est beau. Surtout avec la fumée bleutée des calumets. Les profils des Indiens se découpent, plus ou moins en ombre chinoise. Au premier plan, en haut à gauche, là, les têtes des Indiens. En face, d'autres Indiens éclairés de face par la mouvante clarté des flammes. La caméra se rapproche du foyer. Autour des flammes, une aura d'air chaud déforme les visages qui se tordent en grimaces tantôt grotesques, tantôt effrayantes, histoire de nous rappeler que nous avons affaire à des sauvages. La caméra se recule, s'élève. On découvre alors l'ensemble de la scène. Et c'est pas triste. C'est à qui mangera le plus vite, afin d'être le premier à pouvoir se resservir. Et que je t'enfourne une bouchée de bidoche, et que je te la pousse avec un bout de crêpe, ou bien le contraire. Enfin, en tout cas, faut que ça rentre. De temps en temps, on vit d'une corne de bison pour faire passer le tout, et on recommence en lorgnant le morceau qu'on va bien pouvoir baffrer si l'autre con en face ne le finit pas avant moi. Ah, on est très occupés. Les vieux, et ils ne sont pas rares, mangent plus posément. Ils jettent sur tout ça un regard amusé, tout en sucetant leurs morceaux de viande comme tous les vieux du monde, avant que la sécu ne rembourse les dentiers. Et eux, c'est plutôt le calumet leur truc. Et quand c'est pas un qui fait tourner, eh ben c'est l'autre. Hein. Parmi les jeunes, d'un seul coup, une bagarre se déclenche. Oh, pour trois fois rien, hein. L'un des deux protagonistes a juste voulu planter son couteau dans un chouette morceau de barbac. Et l'autre, il a mis sa main là où il fallait pas au mauvais moment. Ah, alors celui au couteau n'avait pas dû aller de main morte parce que le couteau en question avait traversé la dite main de part en part au risque de créer des lésions irréparables. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ça paraît un peu à contre-emploi, cette expression « pas aller de main morte ». Enfin, du moins dans le cas présent. Enfin, du coup, il n'est pas content du tout, celui qu'on va nommer « Aïe, je suis pas de la viande ». Il se sent l'air con avec le surin du futur « plante les potes » planté dans sa main droite. Et en plus, ça lui fait mal. Et il n'aime pas avoir mal. Il était juste venu là pour rigoler un coup, manger, boire, discuter le bout de gras, et v'là que l'autre con lui bousille sa soirée. Ah, il est en rogne, le camarade. Alors, sans un cri, sans un mot, sans le moindre signe de douleur, il arrache d'un geste ferme et digne l'horrible poignard qui lui déchire la main. Alors là, aussi, un petit truc d'auteur, hein, je sais vraiment pas pourquoi le poignard est horrible, hein. Mais ça m'est venu comme ça, ça fait bien, ça fait littéraire, hein, non ? Bon, du coup, d'un geste large, il balance derrière lui l'arme qui manque de se ficher dans la tronche de « c'est moi qui cause », le chef, qui a juste le temps de baisser la tête. Ses plumes en prennent un coup, il y en a deux ou trois qui pendent lamentablement, et ça aurait pu être plus grave, mais... Enfin, pendant ce temps... Les deux adversaires tournent autour du feu. Ah, bien sûr, la caméra suit le mouvement, ce qui fait que vous, dans votre fauteuil, vous attrapez le tournis et qui vous vient la vague envie de vomir. Heureusement, le plan se termine et nous repassons à une vue plongeante. Mais pas trop, hein, pas trop plongeante, ce qui nous permet de suivre le combat dans les meilleures conditions. Pour l'instant, c'est le round d'observation. de part et d'autre du brasier, les yeux dans les yeux, il tourne lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. D'un coup, il s'arrête. Il ne se quitte pas de l'œil, prunelle dans prunelle, à se dire des choses pas aimables. Pas aimables du tout, même. Dans le tipi, le silence se fait. Enfin, tout au tout, moins jusqu'à ce que Coule au fond donne « Aïe, je suis pas de la viande, vainqueur à 6-1 !»« Vite fait, bien fait, les paris s'organisent, c'est à qui braillera le plus fort !»« Victor est un peu navré, lui il a hâte qu'on parle de son problème, il en a rien à foutre, lui, des histoires de ses viandards !»« Oh, bah s'il leur avait su, hein, enfin s'il avait su, il leur aurait servi des noisettes, hein !» Enfin, tout ce que je vous dis là sur Victor, sur l'écran, ça se résume à une espèce de sirène mimique vaguement dégoûtée, mais comme c'est la version française que vous voyez, hein, on ne peut pas juger. Hein, c'est peut-être que c'est le doublage qui est pas très bon, enfin bref. C'est moi qui cause, le chef se dit, alors que ce merdier, ça a assez duré. Et majestueux, malgré ses plumes brisées et pendouillantes, il se dresse. Il lève la main pour demander le silence. Et comme personne ne le regarde, eh ben évidemment, ça produit aucun effet. Hein. Putain de bordel de merde, hurle-t-il. Vous allez la fermer, oui? Sans doute a-t-il été plus convaincant cette fois, car le silence se fait de nouveau. Il y en a marre de vos histoires, hein. Vous deux, là, le piqueur et le piqué, vous réglerez vos affaires plus tard. Disons, tiens, demain, avant l'opéro. À propos, dis, Coule au fond, mets-moi 10 chevaux sur « Ah, je suis pas de la viande, hein, hein ?» Tu me paries 10 chevaux sur lui. Bon, et puis c'est pas tout ça, on n'est pas là pour rigoler. Pechmelban nous a demandé notre conseil et nous nous devons de lui donner. J'ai dit. Impressionnant, non? Ah, ça, c'est de l'autorité. Et dans son coin, Victor pigne en branlant du chef. Tu y crois, toi? Le sorcier demande alors la parole. Et ça, c'était la fin du 8e épisode. Alors, comme d'habitude, il y a quelques questions. Est-ce que j'ai droit à un sandwich, moi, pendant qu'il ripaille ces cons-là? Vous la trouvez comment, la description du conseil, vous? Hein? Bien, hein? Non? Enfin, c'est ce que on apprendra. Enfin, je sais pas ce qu'on va apprendre, d'ailleurs, on va bien voir. En écoutant le prochain épisode du seul feuilleton en cinémascope, tous les ancêtres descendre à la prochaine. Neuvième épisode. Qui a comme sous-titre « Qu'est-ce qu'on fait si l'ancêtre descend la prochaine ?» Et tu y crois, toi, parle. Il raconte la visite de Victor. Il dit que le rêve de voilier de la fin de la page du 7e épisode ne laisse pas le moindre doute. Les esprits ont parlé, et on ferait bien de suivre le conseil si on veut pas qu'il nous arrive des bricoles, voire pire. Allez. Et quand il a fini, il se rassoit très dignement, et avec un sourire satisfait aux lèvres. Il est toujours très fier de lui quand il parle, tu y crois, toi? Et il surveille discrètement, du coin de l'œil, les réactions des autres à son intervention, voir comment on a apprécié, quoi. Bah, dans l'ensemble, tout le monde semble d'accord avec lui. Chacun leur tour, les participants confirment leur accord par un simple geste. Les bras croisés sur la poitrine et un mouvement de tête de haut en bas et inversement en cas d'accord. Le poing fermé, le majeur dressé à la verticale en cas de désaccord. C'est simple, c'est pratique, et puis ça dit bien ce que ça veut dire. Et sur le score final de 69 bras contre 1, la motion fut adoptée. Oui, 69 bras, ce score s'explique de la façon suivante. Le conseil est composé de 36 membres, dont un manchot. Ouais. Les choses qui arrivent. N'empêche qu'il s'agit de fêter ça, et on vide quelques cornes de bison. Ah, Victor, lui, pendant ce temps-là, a des fourmis dans la jambe gauche, et il est bien emmerdé. Heureusement, les autres se sont remis à brailler à qui mieux mieux, et il peut en profiter pour changer de position sans se faire remarquer. Ah, ça dure un moment, et puis c'est moi qui cause, reprend la parole. Ouais. Le chef parle. Le silence se fait. Et de sa belle voix grave et profonde. Non, là, non, je sais, vous vous dites, il exagère. Non, mais bon, j'exagère pas. Hein, un tipi, ça fait dans les 8 mètres de diamètre et dans les 5 mètres sous plafond. Hein. Et on en fait tenir du monde là-dedans. Et je suis bien sûr qu'une voix grave et profonde doit résonner dans un tel espace. Oh, certes, le tipi se prête moins à la résonance que l'église romane, oui. Mais c'est sans doute la raison pour laquelle on chante rarement le chant grégorien sous un tipi, enfin. Non, mais soyez sérieux. Toujours est-il que c'est moi qui cause, reprend la parole, et il dit... Bon, c'est pas tout ça. On est d'accord pour dire que Peshmerga doit faire le grand voyage qui le ramènera vers son père. Mais cette situation ne va pas sans poser problème. Avez-vous pensé à Koulophon ? Et là, il faut voir la tronche des autres. Ah, c'est clair, ils n'ont pas pensé un seul instant à Koulophon. Et... C'est moi qui cause, reprend la parole. Peshmerga et Koulophon sont frères de sang, et où l'un va l'autre doit le suivre. Et que va devenir Koulophon dans le monde des Wachichous ? Devons-nous le laisser partir lui aussi, ou devons-nous faire une entorse au pacte que constitue la fraternité de sang ? Et la femme de Peshmerga et ses papouses, ils vont faire le voyage eux aussi, hein ? Je vous invite à réfléchir à ces questions. Que celui qui veut parler, parle.
Alors là, moi, cette formule, que celui qui veut parler, parle, j'aime bien parce que ça fait, je trouve que ça fait vachement indien, vous trouvez pas, vous ? Enfin, bref, pour l'instant, ils ont surtout l'air de réfléchir. Alors pour réfléchir, pour se donner le temps de réfléchir, on boit une corne ou deux, hein, pour s'aider à penser. Victor, lui, se dit que lui non plus, il avait pas vu les choses sous cet angle, hein ? Petite pêche à la peau douce, Savsko, hein ? Elle le laissera jamais partir seul sans elle et les enfants. Et il s'imagine débarquant avec sa petite famille. Plat, son vrai père ne va pas s'en remettre. Et voilà qu'il est interrompu dans ses pensées par Tuikwatroi, qui ne va pas risquer de perdre une occasion de parler, et surtout de faire approuver ce qu'il dit, afin d'affermir autant ce que peut se faire sa domination de sorcier sur la tribu.
Il n'est pas question de remettre en cause la loi des frères de sang. Ce serait manquer au grand esprit. Peshmerga et Koulophon sont frères de sang. Et où l'un va, l'autre va aussi.
J'ai dit. Pour sa femme, ses enfants, c'est à lui de décider. J'ai pas d'avis sur la question.
Il se rassoit encore une fois très dignement. Mais il doit rater quelque chose, car il se rétame de tout son long. C'est ce qui fait beaucoup rire. Alors, il fait semblant de prendre ça bien, mais son orgueil en prend un coup. Heureusement pour lui, on n'a pas le temps de s'apesantir sur sa mésaventure, qu'à coupe dans le vif intervient.
Bon, alors, on dit que c'est réglé, qu'on n'en parle plus. On va pas passer la saison des prunes là-dessus, hein. Moi, je voudrais qu'on parle des fusils.
Les fusils, nom de Wakatanka. Plus personne y pensait à ces foutus fusils.
Et coupe dans le vif continue.
Mes frères, il faut aller vers le progrès. Vous souvenez-vous des dégâts que faisait le fusil de Peshmerga quand il avait encore des munitions?
Putain, hein, ça dégage ces trucs. Y a pas, c'est plus performant qu'un arc. Et puis ça demande moins d'efforts, vous vous en foutez peut-être, mais moi j'ai des rhumatismes dans le bras droit.
Ah, bah c'est un argument comme un autre, et il doit quelques-uns à souffrir de diverses douleurs, car beaucoup de bras se croisent et les têtes hochent de haut en bas. N'empêche que c'est moi qui cause, estime que ce conseil dure depuis suffisamment de temps, et il propose de faire la synthèse.
Donc, on dit donc que Peshmerga doit prendre le bateau, rejoindre son père. On dit aussi que Koulofon, son frère de sang, l'accompagnera. Pour les fusils, on va voir, mais on trouvera bien un moyen d'en profiter. J'arrive deuxième. T'es le plus vieux, c'est toi qui lui diras.
Et là-dessus, ils boivent un coup pour sceller leur décision. Heureusement pour Victor, ils sont toujours aussi bruyants et il peut s'éloigner sans problème. Et voilà, nous voilà revenus où nous en étions à la fin du 7e épisode. Ce qui fait que ce qu'aurait dû vous raconter ce 9e épisode que vous êtes en train d'écouter, vous ne le trouverez que dans le 11e épisode, hein, forcément. Hein, on a perdu 2 épisodes sans que l'action avance d'un poil. Hein. Ah là, non mais, franchement, ça m'étonnera toujours. Enfin... J'en profite pour vous dire que la cuisine s'est améliorée, enfin la mienne, parce que, j'aime bien manger de temps en temps, et c'est un plaisir de vous raconter tout ça. Toujours est-il que, comme l'avait prévu Victor, petite pêche à la peau douce, sa femme, ça se croit, a rien voulu l'entendre pour le laisser partir seul. Koulofon, son frère de sang, lui, n'avait aucune envie de traverser la mer, vu la façon dont il nageait, hein, si vous vous souvenez le début. Mais comme on l'a dit et répété, Peshmerga et Koulofon, son frère de sang, et où l'un va, l'autre va aussi. Alors là, normalement, en tant qu'auteur, je faisais partir tout ce petit monde, hein, Victor, sa femme, ses gosses, Koulofon et puis une dizaine de Sioux dès l'aurore. Mais comme j'ai dû vous raconter la façon dont s'est déroulé le conseil et que vous avez sûrement parié, vous aussi, sur le vainqueur du combat qui doit opposer « Aïe, je suis pas de la viande » à ma droite et « Plante les potes » à ma gauche, alors évidemment, si je donne pas le résultat, tout le monde va me faire la gueule. Hein? Non mais, vous voyez tout le retard qu'on est en train de prendre là, vous voyez? C'est donc la fin du 9e épisode, donc quelques questions comme d'habitude. Par exemple, qui va gagner ce fameux combat, hein, hein? Où va le monde? Ah, ça aussi, c'est une question. Victor n'est pas vraiment le héros, c'est ce que je vous ai dit au départ. Mais alors, c'est qui le héros?
Et Germaine, la mule, hein? Qu'est-ce qu'elle est devenue, Germaine?
Ah, bah c'est que ce qu'on apprendra certainement un jour, et peut-être même dans le 10e épisode de notre grand feuilleton, moi, je suis les ancêtres, je descends, à la prochaine.
Ah, quand l'appétit va, tout va, aurait dit Plat. Et effectivement, tout va bien. Nos amis, enfin là j'écris nos amis, je récapitule, hein, c'est, je veux dire Pechmelba, sa femme, ses gosses, Coulofon, et les noms plus ou moins ridicules d'une dizaine d'autres sioux, voilà, sont en train de casser la croûte, quelque part entre de là où ils sont partis et là où ils vont. Ah, pas la peine de compter sur moi pour vous donner les détails. Hein. Les détails, je vous en ai donné pour le conseil. Alors, je vais pas recommencer, on a déjà pris 2 épisodes de retard. Non, mais soyons sérieux, quoi. Pas de détails. Donc, ils commentent le combat qui précédait leur départ. Aucun d'entre eux n'avait parié sur le vainqueur. Aussi, par ressentiment sans doute, aucun d'eux ne prononça son nom. Et nous ne vous en dirons pas plus, hein. À quoi bon ? À quoi bon aussi vous dire que le voyage dura longtemps ? Ben, c'est évident, hein, c'est long, 2600 km à vue de nez quand on est à pied, à cheval et sans voiture. À raison d'une 40aine de ces kilomètres par jour, ils mirent à quelque chose près 2 mois pour parcourir la distance qui les séparait de Boston, qui est, enfin, vous le sauriez hein, si vous aviez suivi un minimum, le port où Victor devait retrouver le navire affrété par son père. Pour faire bref, en vous donnant le minimum de détails, sachez qu'ils rencontrèrent un Prévert, 2 ponies, 3 bisons, 4 poules d'eau, 5 linglins, 6 Versailles m'étaient comptés et 1 raton laveur. Rien de notable, en quelque sorte. Boston, selon le petit Robert, est un port des États-Unis. Hein? Jusque-là, on n'est pas très étonné, ça fait un bout de temps qu'on sait que Victor traîne dans le coin. Boston fut donc fondé en 1630 par des colons britanniques et connut ses premières émeutes en 1770. Ah ben, pas de peau, c'est juste le moment où il se pointe là avec sa troupe d'indigènes, dis donc. Eh ouais, la révolte était menée par un boucher un peu pédé, une surnommée Madame Thatcher, qui préconisait l'intérêt du privé sur le collectif. Et qui de ce fait rejetait l'emprise de l'Empire britannique, nique ta mère évidemment. Et souvenez-vous, Victor n'aime pas les Anglais. Hein ? Ah, ça c'est dit dans le 2e épisode. Écoutez, nom de Dieu ! Bon, donc, bien naturellement, Victor, quand il arrive à Boston et apprend ce qui se passe, prend parti contre les Anglais. Et comme il en a, eh ben il fournit les fusils dont Madame Thatcher et ses troupes ont besoin contre espèces sonnantes et trébuchantes, comme lui avait recommandé Plat. Hein. Alors, il faut quand même souligner que le hasard fait drôlement bien les choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si Victor n'était arrivé que 2 ou 3 petits mois plus tôt ou plus tard, tout ça n'aurait pas pu avoir lieu. Hein. sans même parler du fait que Pla avait choisi d'investir dans des fusils, hein. Il aurait pu, je sais pas moi, choisir les poêles à frire ou le papier cul, hein, ce qui aurait pu être aussi rentable en d'autres circonstances. Mais c'est curieux, hein, le destin, quand même, non?
Bref, ce fut une belle braderie. Victor et ses amis indiens ne savaient plus où donner de la tête. Les étals qu'ils avaient dressés sur le quai ne désemplissaient pas. Chaque bostonien voulait son fusil et n'hésitait pas à y mettre le prix. Du coup, les cales du navire se vidaient, tandis que l'escarcelle de Victor se remplissait au-delà de ses espérances. En moins de 2 jours, le navire fut vide. Les Sioux, à qui Victor avait fait cadeau de quelques centaines de fusils en récompense de leur aide pendant la vente, et par amitié peut-être aussi, repartirent joyeux. Et Victor resta seul avec Koulophon, sa squaw, et ses papouses. Alors maintenant se posait le problème du retour, et ça n'allait pas être simple. Du moins, s'il en croyait les dernières instructions de Pla, son père, qu'il avait trouvées dans la lettre que lui remit le capitaine du navire. Mon cher fils, si tu lis cette lettre, c'est qu'en homme averti en valant deux, tu as bien aménagé ta monture. Je reconnais bien là ta fidélité au principe que je me suis efforcé de t'inculquer en père responsable que je crois être. Ceci dit, dès que tu auras fini de vendre le stock qui se trouve dans les cales, au meilleur prix, hein, n'oublie pas, tu te rendras dans l'île de Cuba. Le capitaine est au courant et sait où il doit se rendre exactement. Une fois arrivé, tu prendras contact avec la servante espagnole Isabella Taba à vendre. Tu négocieras au meilleur prix de quoi remplir mes cales de sa marchandise. Puis, tu rentreras en France. Néanmoins, je me dois de t'informer de certaines choses. Du fait que la marchandise que tu vas me rapporter ne peut pas rentrer légalement en France, tu t'en es pas sans savoir que c'est la ferme des tabacs qui a le monopole de la culture et de l'exploitation du tabac, et que toi non plus, tu ne peux pas rentrer légalement en France, il convient de prendre quelques précautions. Tu peux faire entièrement confiance au capitaine de mon voilier. Si tu suis en tous ses instructions, j'aurai bientôt le plaisir de remplir ma bourse et de te serrer dans mes bras. J'espère que tu feras pour le mieux et au meilleur prix, hein, n'oublie pas. À part ça, mon cheval va bien, ta sœur ne s'arrange pas, et je crois savoir que ta mère est un peu souffrante. Je compte sur toi, ton père, Pla.
Ah, comme on le voit, Victor avait réalisé à la perfection la première partie du programme établi par Pla. Il ne mettait pas en doute que les talents d'organisateur de son père lui permettraient de réaliser le reste de la même façon s'il ne rencontrait pas en route une bande de pirates sanguinaires. Hein, on se souvient qu'au voyage aller, Victor avait échappé à ce péril, mais le secteur de Cuba et de la mer des Caraïbes est autrement fréquenté par cette engeance que l'Atlantique Nord. Et il peut craindre le pire. Mais ce qu'il craint surtout, Victor, c'est le mal de mer. Il a gardé un très mauvais souvenir de son dernier voyage. Il rêve d'un engin volant qui le transporterait en quelques heures jusqu'au beau pays de France. Traverser le ciel comme un oiseau géant au lieu de subir le supplice de ce sol qui se dérobe sans cesse sous vos pas, ce monde où la verticale et l'horizontale, le côté horizontal, sont de doux rêves. ce voyage ennuyeux, ce paysage ennuyeux, tant il est vide, terrifiant quand une voile apparaît au loin. Ah, c'est que la guerre est toute à tous les coins de rue sur l'océan. Les Anglais qui nous ont foutu la pâtée dans cette fameuse guerre de 7 ans, qui s'est terminée il y a 7 ans justement, ne rechignent pas à jouer les prolongations. Et les Espagnols, qui sont nos alliés, ne se comportent pas mieux. Il n'y a qu'avec les pirates qu'on est à peu près sûr des intentions du navire qui vous approche, quoi. C'est on voudrait que je sois pas nerveux, pense Victor, hein, au moment de larguer les amarres. Le fier vaisseau quitte le port de Boston, toute voile au vent. Le temps est calme, l'air est pur, et Victor ne voit pas plus qu'à l'aller la Statue de la Liberté. Mais ça lui est égal à Victor, il tente simplement de garder son équilibre, et il surveille avec attention les mouvements de son estomac. Coule au fond, lui, est couché en foetus sur sa couchette, il ne quitte pas la cabine qui leur a été attribuée, pas plus que pêche à la peau douce, petite pêche à la peau douce, et que les enfants. Hein. À eux, c'est le capitaine qui leur a imposé cette condition. Non, pas d'être en foetus, mais de rester dans la cabine. Si Coulofond, lui, se tient dans cette position, c'est simplement pour lutter contre la phobie de l'eau qu'il a contractée depuis sa rencontre avec Victor. Et il faut dire aussi que l'équipage voit d'un très très mauvais œil la présence des Sioux sur le navire. Et quant à petite pêche à la peau douce, c'est encore pire. C'est une femme. Et une femme sur un bateau, ça porte malheur. Alors, une indienne, vous pensez bien. Fin du 10e épisode. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Est-ce qu'on pourrait dire que Pla, le père de Victor, est un personnage intéressé ? Et où tout cela va-t-il nous mener ? Hein ? Quelle heure est-il ? Et où est-ce que j'ai rangé mon briquet ? Hein ? Ah, nous le saurons certainement un jour, et j'espère retrouver mon briquet avant le prochain épisode de notre grand feuilleton. Moi et les ancêtres, on descend à la prochaine. Onzième épisode. Par 76 degrés 23 de longitude ouest et 25 degrés 32 de latitude nord, la mer est calme. Mais alors tellement calme que Victor n'a même plus le mal de mer. Il n'y a pas un souffle de vent. Les voiles pendent lamentablement. Il fait chaud. Il fait soif. C'est idiot cette parle de vent. Ils sont plus très loin de l'île de Cuba. Jusque-là, tout s'était très bien passé. Et puis tout d'un coup, rien. Allez, hop, plus un souffle d'air. Et ça fait 2 jours que ça dure. Et y en a marre. Tout le monde est nerveux sur le bateau. Seule la nuit apporte un peu de fraîcheur, si on peut dire. L'équipage dort sur le pont et passe la journée dans les cabines et la cave qui est vide et qui reste l'endroit quand même le plus frais du navire. Alors comme toujours, quand ils n'ont rien à faire, les marins parlent. Et ils sont superstitieux, les marins. Hein ? Ah tiens, relisez les révoltés de la Bounty ou Moby Dick, ou l'îlot Trésor. Hein, n'importe quel roman ou récit traitant de la mer et des marins, et puis vous verrez que les marins sont superstitieux, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein, si vous avez lu ces livres, vous savez aussi que les marins sont bavards et qu'ils racontent n'importe quoi quand le besoin s'en fait sentir, c'est-à-dire quand il se passe quelque chose d'anormal sur le navire. Hein, Il faut que ce soit la faute de quelque chose. Le Bosco louche et il vous apporte le mauvais œil, ou bien le capitaine a obliqué vers la gauche en sortant de sa navire, de sa cabine, et puis on a oublié de saluer Neptune en passant le tropique, ou n'importe quoi, enfin bref, tout est bon pour justifier que ce que l'on considère comme une malédiction, c'est de la faute de quelqu'un. Et cette fois, ils étaient à la noce, les ragoteurs. Oh, pas besoin d'aller chercher midi à 14h, hein. Ils les avaient, leurs responsables. C'étaient les emplumés qui se terraient dans leur cabine. Ouais, ouais, c'était leur faute, tout ça. Et puis, on allait voir ce qu'on allait voir, hein. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, le bruit court, monte, s'amplifie. Tout ça, c'est de la faute des Indiens. C'est qui paraîtrait même qu'il y aurait une femme parmi eux, hein. C'est pas étonnant ce qui nous arrive, hein. Jusqu'au moment inévitable, bien sûr, où l'un d'eux s'écrie « Ah bah, y'a qu'à les jeter à la mer !» Alors, pour la révolte proprement dit, elle se passe comme toutes les révoltes maritimes que vous pourrez lire par ailleurs, hein. Ça s'arme, ça crie, ça parlemente, ça menace, tout ça dans le désordre, et le désordre le plus absolu. Moi c'est des trucs que je sais pas raconter, tout ça. Et puis, encore une fois, hein, si vous voulez des détails, reportez-vous aux ouvrages que je vous ai conseillés un peu plus haut, là. Vous savez, Moby Dick, la Bounty et tout, là. Ouais, hein. Bref, on en arrive au moment où les mutins menacent le capitaine de le jeter à la mer s'il ne lui livre pas les Indiens. Alors devant cette perspective, en bon capitaine, il s'écrie « Les femmes et les enfants d'abord !» et il ouvre la porte de la cabine, hein, ravi de s'en tirer à si bon compte. Nos amis se retrouvent sur le pont, on leur lie les bras, on leur attache des poids de fonte aux pieds et on se prépare gentiment à les foutre à l'eau. C'est alors que Coulofon prend la parole. Et comme il parle en sioux, personne ne comprend rien. Et ça n'aurait pas changé grand-chose si Victor n'avait pris la peine de traduire. Mais Victor le fait, et ce qui nous permet de comprendre quand même ce que Coulofon baragouine. En gros, ça donne à peu près ça. Je veux pas qu'on me jette à l'eau. N'oubliez pas que j'ai déjà subi un gros traumatisme à ce sujet. Si j'ai bien compris, votre problème, c'est le manque de vent. Si vous voulez, je peux vous arranger ça. J'ai suivi des cours avec Tui Crois-toi, et il était très bon pour le vent que Tui Crois-toi. Aussi vrai que « Aïe, je suis pas de la viande à gagner son combat », je vais faire revenir le vent, mais ne me fichez pas à l'eau. Évidemment, un tel discours étonne, surtout dit en sioux avec le ton. Hein. C'est après avoir eu la traduction, les marins discutent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse faire? Oh bah, après tout, on n'a rien à y perdre. Tu crois ça, toi? Oh, moi, je dis que c'est du vent, tout ça. Oh, eh bien, justement, il nous en faut du vent. Hein. C'est moi, je suis pour. Ah bah non, moi, je suis contre. Et puis, oh, moi, je m'en fous. Heureusement, c'est les pour qui gagnent, dis donc. Alors, on détache Coulofon. Et on le met en demeure de faire venir le vent, sans quoi il comprendra définitivement pourquoi il porte ce nom ridicule. Il dit d'accord, détachez aussi les autres, et puis je vous arrange tout ça en deux coups de cuillère à peau. Ça, c'est Victor qui traduit, hein, bien sûr. Le temps de rassembler les quelques ingrédients nécessaires et la cérémonie peut commencer. Ah, il fait ça bien, Coulofon. Après avoir allumé son calumet et en avoir tiré une grosse bouffée, il le présente aux six directions. Il honore ainsi tour à tour l'est, le sud, l'ouest, le nord, la terre, et ça sur un bateau, faut le faire, et enfin le ciel. Il se lance ensuite dans une grande déclamation à laquelle personne ne comprend rien. Il finit son calumet, va verser les cendres dans la mer et annonce qu'il se retire dans la cabine pour prier.
« Oui, mais quand il va revenir le vent ?» qu'on lui demande.
Ah, bah au bout d'un certain temps, qui répond. Et là, ça râle. Là, ça se fait râler. Mais tu nous prends pour des cons, l'Indien. Ouais, ouais, tu nous prends pour des cons, hein, qui reprennent tous les marins en cœur. Alors moi, cette scène, je sais pas vous, mais moi, je la verrais très bien style comédie musicale, là. Les marins danseraient en groupe à l'américaine, ce serait vachement kitsch, non? Non? Ça vous dit pas? Bon, enfin bref, finalement, il est décidé que si le vent ne regonfle pas les voiles avant la fin du jour, eh ben pour couler au fond, ce sera le gros plongeon. Nos amis regagnent donc leur cabine où ils restent enfermés sous bonne garde. Et à peine la porte s'est-elle refermée que Victor interroge couler au fond. Mais c'est quoi que tu viens de nous faire?
Ben je nous ai fait gagner du temps.
Mais ça va marcher ton truc?
Bah j'en sais rien, mais ça nous donne une chance, et puis t'as entendu, j'ai réussi à glisser l'air de rien le résultat du combat, hein?
C'est les auditeurs qui vont être contents, ceux qu'on perdait pour celui qui a gagné, hein? C'est déjà ça. Et puis pour le reste, on va bien voir, je vais faire des prières, tu y crois toi, disais que ça peut pas faire de mal, alors...
Sur quoi? Il se met face au mur, assis à l'Indienne, et allume son calumet en marmonnant des trucs. C'était donc la fin du 11e épisode. Et comme d'habitude, quelques petites questions.
Lorsque le vent soufflera, je repartira, qui chantait Renaud. Et notre histoire, elle va repartir, vous croyez? À propos, vous avez gagné votre pari, là, sur le combat des deux Indiens Eh ben, il n'y a plus qu'à attendre le 12e épisode de notre grand feuilleton. Faut pas descendre à la prochaine, l'ancêtre Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il va falloir attendre la semaine prochaine pour retrouver nos héros. Lequel est mon ancêtre? Ça, je me demande bien finalement. Je finis par me demander. Mais on le saura sûrement un jour. Et en attendant, je dis un grand merci à Nico qui toutouille les boutons derrière la vitre. Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.